Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, heureux de vous retrouver après une longue période estivale. Et pour la première émission de la saison, bienvenue à Istanbul, où nous avons posé nos micros en parallèle au 10e séminaire de l'Institut du Bosphore. Bonjour Bahadır Kılıçagası.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Institut du Bosphore, mais cet Institut du Bosphore, qu'est-ce donc ?
C'est un institut fondé à Paris par plusieurs personnalités du monde politique, économique, académique, des médias, de la France, de la Turquie, mais aussi des autres pays européens. C'est un institut qui agit en tant qu'un club de débat parmi tous ces gens, ainsi qu'un centre de recherche, d'études, pour promouvoir une compréhension plus approfondie des relations entre la France et la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie, mais aussi des sujets communs, des sujets horizontaux comme l'énergie, la transformation numérique, l'environnement, la jeunesse, la sécurité. Donc, toute une série de personnalités, des horizons différents viennent ensemble pour débattre, pour avoir une réflexion commune et échanger des idées. Et finalement, évidemment, essayer d'avoir peut-être une certaine vision commune des défis de notre siècle.
Eh bien, nous allons poursuivre le débat ici à Istanbul, au micro de Carrefour de l'Europe. Alors, en Turquie, justement, depuis la sanglante tentative du putsch de juillet 2016 et la féroce répression qui a suivi, le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan paraît sans limite. Des dizaines de milliers de juges, d'universitaires, de militaires ont été arrêtés. Aujourd'hui encore, plus d'une centaine de journalistes croupissent en prison et la presse s'est muselé. Mais à Istanbul, les regards se tournent désormais vers un homme, il faut retenir son nom, Ekrem İmamoğlu. Il est le tout nouveau maire d'Istanbul, issu du principal parti d'opposition au président Erdogan. Alors, une brèche est-elle en train de s'ouvrir en Turquie ? Est-ce la fin de l'hégémonie de l'AKP, le parti du très autoritaire président turc ? Et bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission, nous essaierons d'appréhender comment se situe la Turquie dans la région et sur le plan international, à la fois boudée par les Européens mais en même temps tenté par un rapprochement avec la Turquie. Ankara, membre historique de l'OTAN, a reçu ses premiers missiles russes S-400 aux grandes dames des Américains. Ça fait beaucoup de questions et peut-être quelques réponses que nos invités vont nous apporter. Carrefour de l'Europe à Istanbul, je vous les présente. Alors, Bahadır Kılıçagası, j'ai pas besoin de vous présenter, vous êtes le président de l'Institut du Bosphore. Sully Özel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Kadir Has d'Istanbul, entre autres choses. Hein. Barçim Yinanç, je ne sais pas si je l'ai bien dit.
C'est exact, Daniel.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse et éditorialiste à Ouriette Daily News. Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut international des relations stratégiques. Et Bernard Guetta, est-il bonjour. Besoin de le présenter ? On le connaissait, le journaliste. Voilà le jeune eurodéputé.
Oh, écoutez, jeune, vous exagérez. Le nouveau.
Nouvelle, alors.
Le nouveau, voilà.
On se met d'accord sur nouveau.
Exactement.
Alors, eurodéputé, la Renaissance, c'est-à-dire, si on fait, on traduit en français, de la République en marche. Alors,
non, disons majorité présidentielle.
Majorité présidentielle. C'est vous qui allez avoir le dernier mot. Didier Billon, alors, pour tenter de comprendre la Turquie d'aujourd'hui, il faut peut-être revenir un peu en arrière et expliquer ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.
Oui, nous avons eu une tentative de coup d'État qui a induit une vague de répression, d'atteinte aux libertés démocratiques fondamentaux dans ce pays et d'une véritable purge au sein de l'appareil d'État. Le président Erdogan a considéré tout de suite, comme dans un réflexe pavlovien, que c'était ses anciens alliés, c'est-à-dire les gulenistes, ces hommes et ces femmes regroupés sous l'égide du prédicateur Fethullah Gulen, qui vit aux États-Unis depuis 20 ans désormais, et qui ont été accusés, au départ sans trop de preuves d'ailleurs, d'avoir fomenté cette tentative de coup d'État. En réalité, ce qui me semble important, c'est les conséquences. C'est-à-dire que M. Erdogan a probablement beaucoup de défauts, Mais il a aussi une qualité, c'est que c'est un homme qui sent la vie politique, qui a une capacité de réactivité. Et je suis de ceux qui considèrent que face à cette tentative de coup d'État militaire, il y a eu un contre-coup d'État civil à l'instigation de Erdogan. S'en est suivi donc un régime, enfin la consolidation d'un régime très autoritaire, d'autant que la constitution turque est devenue présidentialiste, donc cela donne beaucoup de pouvoir au président Erdogan, cela réduit d'autant les pouvoirs du Parlement turc. Pour autant, la situation n'est pas figée. Comme l'ont démontré sans beaucoup de débats les résultats
des les dernières élections municipales, on va évidemment y revenir. Selon elle, il reste encore de très nombreuses zones d'ombre sur ce qui s'est passé dans cette nuit très importante entre le 15 et le 16 juillet 2016, 3 ans après.
Oui. Bon, tout d'abord, c'était une nuit très importante, c'était une nuit très traumatique. On sait suffisamment ce qui s'est passé, on sait suffisamment les organisateurs ou les militaires qui ont participé à cette tentative du coup d'État, mais nous n'avons pas encore, naturellement, la photo entière. Je sais qu'en Europe, on croit que ça, c'était un autogolpe qui a été géré par le président de la République, et on juge ça à cause de ce dont Didier a parlé, ce qui s'est passé après. Et un nettoyage presque total des gulenistes, et ce n'était pas limité par des gulenistes, mais d'autres aussi, ceux qui sont des gens d'opposition, soit dans l'académie, soit des universitaires, des
ça
gens...
Ça a été l'occasion pour le président Erdogan d'asseoir son pouvoir.
Mais c'est lui qui a dit que c'était un cadeau de Dieu. Donc, on fait des conclusions. Lui, il savait, il l'a géré. Je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que tout d'abord, nous connaissons les noms des militaires qui ont participé à tout ce qui s'est passé. On connaît déjà que les gulenistes étaient très très bien organisés au sein de l'armée turque, parce qu'ils ont commencé depuis le tournant du siècle du 21e siècle de contrôler soit les examens pour l'entrée dans le militaire, et puis ils ont commencé à contrôler le département de ressources humaines, donc ils ont pu placer leurs gens à eux à des positions très très importantes. Ce n'est pas par hasard que la plupart des militaires, des officiers de l'armée turque qui servaient dans l'OTAN étaient des gulenistes qui demandent maintenant dans des pays européens le droit d'asile. Donc, ce n'était pas quelque chose qui s'est passé simplement cette nuit-là. Il y a une histoire. Nous, les Turcs, nous connaissons cette histoire. Vous, en Europe, vous ne connaissez pas l'histoire. Et puis, il y a une conséquence de ces tentatives de coup d'État.
Cette énorme répression.
Exactement. Mais les conséquences de l'échec n'expliquent pas ce qui s'est passé cette nuit. Bien que nous ne savons pas encore, nous ne connaissons pas tous les faits de ce qui s'est passé, pas simplement cette nuit, mais pendant la journée et le jour d'avant. Parce que dernièrement, on a entendu, ou bien les Russes disent, que M. Poutine avait averti le président de la République turque avant ce tentative.
Bernard Gattin, en tout cas, comme l'a expliqué Soli Özel, très forte répression, des dizaines de milliers de personnes arrêtées ou contraintes à l'exil, c'est notamment
privées de leur travail.
Ou privées de leur travail, c'est le cas de militaires bien sûr, mais de juges, de procureurs, d'intellectuels et de journalistes. On peut quand même rappeler que pour Reporters sans frontières, la Turquie, la plus grande prison qui existe pour les journalistes aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan a évidemment conforté son pouvoir, mais jusqu'où?
Ben, peut-être pas si loin que ça, parce que quand on observe les dernières élections municipales, on s'aperçoit que les deux plus grandes villes du pays, la capitale, Ankara, et puis la capitale économique et la capitale historique en même temps, évidemment, Istanbul, sont passées aux mains de l'opposition. Et ça a été un tel choc pour M. Erdogan qu'il a refusé les résultats, il a dans un premier temps refusé les résultats du vote à Istanbul, il s'est débrouillé dans des conditions très très contestables pour les faire annuler, mais le deuxième vote a donné une victoire à l'opposition encore beaucoup beaucoup plus grande que la première fois. C'est-à-dire que M. Erdogan a s'est vu infliger dans sa propre capitale un désaveu et dans la capitale économique dont il avait été si longtemps maire et qu'il considère comme sa ville, comme le berceau de sa carrière politique, et c'est vrai, c'était le berceau de sa carrière politique, eh bien, il s'est vu infliger un double désaveu et le deuxième particulièrement humiliant.
Alors, le 23 juin. Alors, Bachim Yenanch, l'homme nouveau, il s'appelle donc Ekrem İmamoğlu, il est tellement nouveau qu'on le connaît vraiment pas du tout. J'invite les auditeurs à retenir son nom parce que je pense qu'il a un certain avenir dans l'histoire de la Turquie à venir et puis dans l'histoire de l'Europe et l'histoire de la région. Qui est cet Ekrem İmamoğlu?
Mais justement, peut-être que le fait qu'il n'était pas connu était peut-être un avantage, parce que comme est le cas dans le monde, il y a quand même une fatigue aussi chez les Turcs de voir les classes vieilles, entre parenthèses, les mêmes visages, et même Erdogan, qui il est là depuis longtemps, mais en tant que l'homme fort, ça fait 20 ans, même lui, il va devenir un peu ancien. Donc je pense qu'un de ses avantages, c'était le fait de n'être pas tellement connu.
Alors, il est relativement jeune, il a 49 ans. Hein.
Voilà, justement. Deuxième chose, je pense qu'il n'a pas des grands carrés, si je peux dire, idéologiquement. C'est vrai qu'il vient d'une partie qu'on devrait placer au centre gauche. Hein, on peut toujours discuter ça.
Alors, il vient du CHP, c'est le parti historique d'Atatürk, voilà. Qui a été longtemps au pouvoir. On va évidemment revenir un peu sur ce parti le CHP.
Et pour aujourd'hui, on peut le placer comme un peu le centre à gauche. En tout cas, ce n'est pas vraiment droite. Mais il a des traits, des caractéristiques conservateurs. On sait que c'est un homme pieux, au moins, mais laïque en même temps. Et je pense que ce côté, disons un peu, ce caractéristique conservateur qui a un peu fait appel aux électeurs qui étaient normalement loyaux à Erdogan, parce que pour les électeurs loyaux à Erdogan, ils ont toujours cette allergie contre CHP, parce que pour eux, CHP, c'est la laïcité, et c'est-à-dire ce sont des élites laïques qui ont toujours vu les voilés, les conservateurs, comme des citoyens de deuxième classe, tandis que Ekrem İmamoğlu, avec cette côté conservateur, il voulait donner le message qu'il n'est pas de cette élite laïque qui sont très, disons, ultra-laïques. Et troisième chose, je pense que comme beaucoup de gens avaient été fatigués des rhétoriques très négatives, hostiles de Erdogan, lui, il a utilisé une rhétorique positive. Il n'a jamais antagonisé Erdogan, qui a toujours le respect des électeurs et qui ne sont pas toujours très sympathiques au CHP.
Didier Billon, si Ekrem İmamoğlu a gagné, c'est pas une victoire total du CHP, du parti donc historiquement d'Atatürk, parce que il y a eu, c'est aussi le produit d'une grande coalition avec les dissidents de l'AKP, le parti du président turc, avec le parti nationaliste MHP, enfin tous les gens qui étaient contre, tous les électeurs, tous les hommes politiques qui étaient contre Recep Tayyip Erdogan et l'AKP ont voté pour Ekrem İmamoğlu.
Peut-être pas tous, mais c'est ce que disait tout à l'heure Bernard, c'est-à-dire que ces régimes autoritaires en réalité tiennent par la personnalité du chef, mais quand l'autorité commence à être ébréchée, eh bien, on assiste à des recompositions politiques. Et nous sommes dans cette situation. Je ne pense pas que l'élection de İmamoğlu à la mairie d'Istanbul change tout le paysage politique turc. Mais c'est un événement d'une importance politique capitale. Je suis de ceux qui considèrent que la Turquie rentre désormais dans une nouvelle séquence politique. Jusqu'où va-t-elle aller? Nul ne le sait. Il est trop tôt. Vous avez évoqué qu'un certain nombre d'anciens de la KP aient voté ou aient fait savoir qu'ils avaient voté pour İmamoğlu. C'est tout à fait exact, mais le plus important, c'est un autre parti dont il faut parler. C'est le Parti démocratique du peuple, le HDP, qu'on pourrait définir comme un parti pro-kurdiste, mais ce serait réducteur, car en réalité, ce parti s'est, comment dirais-je, adapté à la vie politique turque national, même si sa base militante est probablement très kurde. Or, ce parti n'a pas présenté de candidats à Istanbul. C'est un phénomène majeur qui, de mon point de vue, prouve la maturité politique de ce parti. Alors, ils n'ont pas directement appelé à voter pour İmamoğlu, mais chacun l'a compris en réalité. Et cela, ça a pu faire basculer le vote en faveur de İmamoğlu. Ce qui veut dire, si je pousse mon raisonnement plus loin, que ça peut reposer la façon dont la Turquie, ses autorités, ses élites, pose la question kurde, car chacun comprend que cette question kurde est le défi central de la société turque. Si les Turcs eux-mêmes arrivent à reconfigurer, à refonder leur perception de cette question kurde, c'est un défi fondamental. Rappelons quand même qu'il y a une guerre larvée depuis 1984, que c'est 40 000 morts. Alors, le paysage politique peut changer, ce qui nécessitera aussi que le Parti républicain du peuple fasse sa mue idéologique, car nous savons que ce parti est traversé par des courants dont certains sont des courants nationalistes. Ce n'est pas le cas de İmamoğlu. Donc on assiste à un nouveau rapport de force à l'intérieur même de ce parti.
Et le logiciel du CHP peut changer.
Mais évidemment, il le peut. C'est jamais gagné d'avance. Mais son élection, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, indique un nouveau rapport du GP à la société, à sa base électorale. Là encore une fois, on dit en France, une hirondelle ne fait pas le printemps, je reste prudent, mais incontestablement, il y a des éléments de rupture. Et si on conjugue cela avec le potentiel effritement de l'autorité de Erdogan, je dis potentiel, alors nous avons une nouvelle équation, et bien c'est aux citoyens turcs de la résoudre.
Alors justement, pour poursuivre Didier Bilion, il y a quelqu'un de très connu en Turquie qui a dit que celui qui tient Istanbul tient la Turquie. C'est et c'est justement Erdogan. Le président Erdogan, ancien maire d'Istanbul, est devenu président de la République de Turquie. Alors, est-ce que...
Si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur l'excellente analyse que l'on vient d'entendre en ajoutant deux choses. La première, c'est que la question kurde, évidemment, domine et définit la politique intérieure de la Turquie, mais aussi sa politique étrangère. Pourquoi est-ce que M. Erdogan s'est rapproché des Russes? Parce qu'il avait besoin de la Russie pour le soutenir sur le terrain syrien, parce qu'il a très très peur que les Kurdes de Syrie, alliés à certains pans des Kurdes de Turquie, ne crée à la frontière de la Turquie un nouvel, si ce n'est État turc, enfin en tout cas une région kurde, indépendant. Et puis le deuxième point que j'ajouterais, c'est que ce rassemblement des forces d'opposition derrière le candidat désormais maire d'Istanbul, bah, pardonnez-moi, ça rappelle exactement ce qui vient de se passer à Moscou. Les opposants, les plus jeunes derrière M. Navalny, ont appelé à voter utile ou à voter intelligent, c'est-à-dire à voter pour n'importe quel candidat qui ne soit pas le candidat de M. Poutine. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vient de dire Didier, la concentration du pouvoir amène la concentration de l'hostilité à ce pouvoir sur la personne du chef.
Alors, salut Ozel, d'un mot, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission, qui détient Istanbul, tient la Turquie. Ça devrait donner de grands espoirs à M. Ekrem İmamoğlu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, évidemment, est promis un grand avenir? Alors, il est un petit peu jeune en politique, il a été élu le 23 juin, et l'élection présidentielle, c'est en 2023. Donc...
Tout d'abord, je ne suis pas si sûr qu'on va attendre jusqu'en 2023, mais ça, à voir. Monsieur İmamoğlu et Monsieur Mansour Yavaş à Ankara, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin du temps pour faire preuve qu'ils sont capables de gérer des grandes villes cosmopolites, métropoles. OK? Donc, c'est leur enjeu et on va voir, ils ont besoin, à mon avis, au moins de deux ans. Et la plus importante, peut-être, de la part de M. Erdogan et de AKP, c'est que Istanbul elle-même représente à peu près 31-32% de l'économie turque. Donc, les ressources dont ils disposaient quand ils contrôlaient la mairie étaient énormes. Maintenant, M. İmamoğlu est en train de couper tous ses réseaux.
Solidaire, on l'a compris, une brèche est en train de s'ouvrir en Turquie. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance de l'actualité. On se retrouve dans 3 minutes très exactement. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Европы.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Istanbul et je vous représente nos invités. Bahadi Erkala Egassi, il est le président de l'Institut du Bosphore. Soleil Özel, il est professeur de relations internationales à l'université Kadir Has d'Istanbul. Barçın Yenonç est journaliste et chroniqueuse éditorialiste à Hürriyet Daily News. Didier Bignon est le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et Bernard Guetta est eurodéputé Renaissance majorité présidentielle. Alors, la Turquie est évidemment un pied en Europe, l'autre en Asie, et évidemment un grand pays de 80 millions d'habitants, candidat à l'Union européenne de très longue date, mais boudé par les Européens, et encore un peu plus depuis la répression post-tentative de putsch manqué de 2016. Traditionnellement, la Turquie est proche des États-Unis, elle est membre de l'OTAN depuis 1952, mais le président Erdogan a amorcé un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, qui s'est traduit par la livraison de missiles S-400 aux grandes dames des Américains. Alors, comment se voit aujourd'hui la Turquie? Comment se ressent-elle à la fois européenne et proche-orientale au milieu d'une zone de grande turbulence? Alors, tout d'abord, la Turquie et l'Europe, c'est un peu, je t'aime moi non plus, en tout cas, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Bernard Guetta, on en parle depuis des années de ce rapprochement de la Turquie et de l'Union européenne.
Vous savez, en vérité, si vous me permettez, on en parle depuis la moitié du 19e siècle, quand l'Empire finissant, quand l'Empire agonisant s'est tourné vers l'Europe pour y chercher des solutions économiques et politiques, les grandes réformes industrielles et politiques. Ça n'a pas
avec
marché.
Avec un premier point d'orgue avec Atatürk, évidemment.
Évidemment, ça n'a pas marché. Les jeunes Turcs, Atatürk, et Atatürk vraiment s'inscrit dans le modèle européen et particulièrement français avec la laïcité, la République. Ah, la République plus une petite chose, l'armée. L'armée qui devient la garantie, mais de quoi? De la laïcité et de la République. Contre qui? Contre les conservateurs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 80 particulièrement, contre les islamistes. Alors, cette Turquie moderne se tourne vers l'Union européenne dès qu'elle s'est constituée, dès même les communautés européennes. Mais les Européens regardent ce pays avec inquiétude parce que c'est un pays d'instabilité politique, de dictature militaire à l'époque, maintenant de dictature ou de quasi-dictature, d'autoritarisme en tout cas, de M. Erdogan, et parce que c'est un pays musulman, il faut le dire, à l'époque où le terrorisme islamiste, pas musulman mais islamiste, fait frémir 80 ou 90% des populations européennes.
Et c'est aussi un très grand pays, 80 millions
c'est
d'habitants.
C'est aussi un très grand pays. Et donc, vous avez dans le cerveau profond d'une immense majorité des Européens, nous allons être envahis par 70 millions d'Ottomans. Ah, ça, c'est terrible. Mais moi, je dirais que le jour où la Turquie reviendra à l'état de droit et au respect des libertés, il faudrait reprendre cette idée en se disant que ce n'est pas la Turquie qui entrera en Europe, mais l'Europe et son modèle politique, social, éthique qui entrera en Turquie et qui confirmerait à ce moment-là l'évolution vers la modernité, la République et les libertés de la Turquie.
Soleil Özel.
Je vais ajouter quelque chose à ça. Depuis 2013, pendant les démonstrations de part de Gezi.
Il faut rappeler un petit peu les grandes manifestations.
En 2013, comme partout dans le monde, il y a eu des manifestations avec des slogans demandant des libertés sociales et des libertés culturelles, que le gouvernement n'essaie pas de contrôler la vie privée, surtout des jeunes. Ok, ça a duré à peu près 3 semaines.
Gezi Park, c'est le centre d'Istanbul. Hein.
C'est un parc dans le centre d'Istanbul, place Taksim, qui est une place très symbolique. C'est aussi une place de contestation entre les laïcs et les non-laïcs et tout ça. Mais Ce que je veux dire, il y a eu une répression après Gezi, et il y a eu une répression après Gezi, après, pendant toutes les élections et tout ça. Et pendant ces 6 ans, ceux qui ont demandé beaucoup plus de liberté, donc un système plus démocratique, un système plus à l'aise, un système, disons, européen, ont continué à lutter. Donc les résultats des élections municipales nous donnent ce message que surtout les jeunes de la population turque veulent une vie qui est beaucoup plus similaire à celle d'Europe que celle du Moyen-Orient.
En tout cas Istanbul, parce que Istanbul, même si c'est 16 millions d'habitants, un Turc sur 5 habite Istanbul, ce n'est pas toute la Turquie.
Si, c'est toute la Turquie, parce que c'est le microcosme de la Turquie. Et je vous en prie, des 7 plus grandes villes de la Turquie, 5 ont été obtenues par l'opposition. Ça fait 60% de la population et plus de 60% de PMB turc. Donc l'avenir de la Turquie sont aux côtes, l'avenir de la Turquie est avec les jeunes et l'avenir de la Turquie est avec ces villes qui ont de la vitalité économique et culturelle.
Un mot, il ne faut pas opposer la Turquie à l'Anatolie profonde, ce serait totalement réducteur, parce que dans Istanbul même, vous avez un kaléidoscope de la société turque. Nous avons parlé de Gezi, c'est les quartiers plus branchés qui aspirent à cette vie démocratique évoquée par Soli. Mais on fait 2 ou 3 kilomètres et on se retrouve dans des quartiers très différents de par leur composition sociologique, de par leur aspiration identitaire. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons notamment un quartier qui s'appelle le quartier de Fatih, qui était un bastion de l'AKP. Eh bien là, l'AKP a été battue aux dernières municipales. Donc, y compris dans des quartiers plutôt conservateurs, il y a, non pas un basculement, je n'utiliserai pas ce mot, mais une modification extrêmement importante.
Et puis, là,
par exemple, je peux faire une comparaison avec la Russie, mais en montrant la différence. La Russie, elle a toujours les revenus du pétrole et du gaz qui peut distribuer. En Turquie, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous avez une économie qui ne marche pas parce qu'il y a une concentration de pouvoir, quand vous avez une économie qui était liée à l'Europe parce qu'on avait un marché libre avec des institutions indépendantes, ça marchait bien l'économie. Et quand l'économie ça marchait bien, on votait pour l'AKP. Mais au moment où l'AKP, le président Erdogan, commence à gérer le pays en oubliant l'indépendance, l'autonomie des institutions économiques...
D'une manière un peu despotique.
Voilà, donc alors comme avec l'affaiblissement de l'économie, justement, sa base qui votait pour lui, peut-être il votait pas justement parce qu'il était conservateur ou qu'il faisait 5 fois par jour
la prière,
mais parce que au début de son mandat, il les avait touchés par l'amélioration de l'économie. Et justement, la différence avec la Russie, c'est que la Turquie a besoin de la démocratie pour que son économie devient plus forte. La Russie, peut-être, elle n'en a pas besoin.
Si,
la démocratie,
elle en a besoin aussi.
Tant qu'il a le gaz et le pétrole, ou la Chine,
ça,
etc.
Ça sauve les meubles, hein, le gaz et le pétrole.
Mais en Turquie, on n'a pas ces ressources-là. Donc, la grande force de l'économie turque, c'est d'être en contact avec les différents marchés, et surtout avec les Européens.
Évidemment, l'Europe, c'est le premier marché de la Turquie, d'où la nécessité d'établir des rapports à définir entre l'Europe et la Turquie. Alors, l'Institut du Bosphore recevait ce matin Faruk Kaymakçı, c'est le ministre des Affaires européennes. Il n'a pas nié les insuffisances de son pays en matière d'état de droit par rapport, par exemple, aux critères européens, mais il a tout de même reproché à l'Union européenne de ne pas être constructive avec la Turquie. Par exemple, il a estimé qu'elle est beaucoup plus conciliante avec la Serbie et le Kosovo. Alors, il a expliqué ce que la Turquie fait peur parce qu'elle est trop grande, trop pauvre et trop musulmane. Qui veut rebondir ? Tiens, Langueta.
Malheureusement, c'est pas entièrement faux. Elle fait peur aussi parce que elle est devenue, ça n'a pas toujours été le cas, mais elle est devenue, en tout cas, depuis 3 ans, un régime policier, un régime plus qu'autoritaire, véritablement un régime policier, et elle fait peur parce que son président, excusez-moi, je vais un peu lui manquait de respect, mais sombre dans la mégalomanie, en se croyant capable de gouverner, y compris le management des grandes entreprises, y compris évidemment la Banque centrale, et qu'il fait erreur sur erreur, que la situation économique se dégrade considérablement.
On est proche de la récession.
On est proche de la récession. Ben, on est, je crois qu'on est dans la récession. Je crois pas me tromper en disant que c'est le troisième trimestre, voilà, plat. Exactement.
Les Turcs, quand ils voient le traitement du président de l'Égypte, par exemple, de Sisi, alors ils commencent à dire, mais il y a quand même des doubles standards. Évidemment, l'Égypte n'est pas candidat à l'Union européenne. Heureusement que on a toujours le criticisme de l'Union européenne, mais c'est là que je pense que il faut souligner que ça n'aide pas quand même quand les Européens vraiment tournent leur dos, n'écoutent pas à certaines des inquiétudes des Turcs.
Alors, Didier Bihan, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce que les Européens reprochent à la Turquie aujourd'hui, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, et ce que les Turcs reprochent aux Européens?
Écoutez, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il faut aussi comprendre que les Turcs, les citoyens turcs, qu'ils votent pour Erdogan ou pas d'ailleurs, ont une véritable amertume à l'égard de l'Union européenne, et qui est bien antérieure aux glissements liberticides qui ont été mis en œuvre par M. Erdogan. C'est-à-dire que les Turcs, pour résumer en une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais ont la sensation que dans leur relation à l'Union européenne, les règles du jeu se modifient au fur et à mesure que la partie se mène. C'est-à-dire qu'ils considèrent, et j'en suis pour ma part assez d'accord, que les règles du jeu ont été modifiées. C'est-à-dire qu'on exige des Turcs plus que ce qu'on exige d'autres États candidats.
Parce qu'on ne veut pas d'elle. Parce que fondamentalement, les dirigeants européens ne veulent pas d'elle.
Ce que Bernard Guetta évoquait tout à l'heure, le problème du fond, c'est le problème culturel. Et quand on dit culturel, c'est le problème religieux. 82 millions de citoyens d'un pays culturellement musulman, un certain nombre de forces politiques au sein de l'Union européenne, ils sont hostiles. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. C'est ça qui rend compliqué ce débat. Parce que nous savons bien qu'au sein de l'Union européenne même, il y a une crispation des identités, notamment confessionnelles, pas uniquement, mais notamment. Et ça rend le débat très compliqué. Alors après, on peut lister les insuffisances de la Turquie. Mais tous les Turcs, ou presque tous, admettent parfaitement que leur pays ne pourrait pas rentrer demain matin dans l'Union européenne. Chacun comprend qu'il y a un processus de négociation, comme pour tout État, avec les exigences de l'Union européenne, ça c'est parfaitement logique, puisqu'il y a un État candidat, il doit se plier, quel qu'il soit, aux exigences européennes, mais ni plus ni moins que les autres. Et c'est pourquoi il y a une certaine amertume et un certain désamour. Pour autant, quand il y a des études de sociologie politique, je ne parle pas des sondages, des études, on voit qu'il y a encore une majorité de Turcs favorables à la perspective européenne.
Parce qu'ils sont européens.
Malgré toutes les couleuvres que l'Union européenne leur a fait avaler, il y a encore cette aspiration diffuse, confuse, qui est beaucoup moins nette qu'il y a 20 ans, bien évidemment, qui a subi des revers, et de la part de forces politiques turques, de la part de forces politiques ouest, enfin, membres de l'Union européenne. Donc tout ça est un processus infiniment complexe, mais je pense, et j'arrête là, que pour refonder en réalité la relation de l'Union européenne à la Turquie, il faut aussi procéder dans le même mouvement à la refondation de l'Union européenne.
Moi, j'ai fait les études à l'école française. Et là, on nous a appris que les droits de l'homme, c'est universel. On ne nous a pas dit à l'école française que les droits de l'homme, la démocratie, c'était judéo-chrétien, etc. Donc, quand on évoque cette dimension culturelle, moi, comme quelqu'un qui a fait ses études à l'école française et après aux États-Unis, ça me choque un peu, cette réaction que vous venez de dire, parce qu'elle est là, hein, elle est là aussi, je le nie pas. Mais quand même, heureusement.
Et j'ajouterai un tout petit point. Le régime turc est devenu véritablement un régime policier. Mais on peut se poser la question suivante. Si les capitales européennes, Paris et Berlin principalement, en tête, n'avaient pas claqué la porte de l'Union européenne au nez de la Turquie à la fin de la première décennie de ce siècle ou au tournant des deux premières décennies, Est-ce que la Turquie aurait connu cette évolution? Personne ne peut le dire, mais moi, j'ai tendance à penser au moins que la question se pose.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Istanbul avec Soli Özel, professeur de relations internationales à l'université Kadir Has, avec Barçın Yenanç, journaliste et chroniqueuse à Oreillette Daily News, avec Didier Bignon, directeur adjoint de l'IRIS, et Bernard Guetta, tout jeune eurodéputé. Alors, justement, les difficultés, Soli Özel, des relations entre la Turquie et l'Union Européenne, est-ce que ça explique qu'à un moment, le président Erdogan s'est tourné vers la Russie? Alors, l'aspect le plus spectaculaire, c'est évidemment la livraison de ces missiles S-400 à l'armée turque. On peut rappeler qu'il y a quelques années, on était au bord d'une guerre entre la Russie et la Turquie lorsque la défense antiaérienne turque avait abattu un avion militaire russe non loin de la Syrie, car il ne faut pas l'oublier, la Turquie vit dans une zone dangereuse.
C'est ce qu'on nous dit tout le temps, et c'est vrai, oui. Et il faut se rendre compte quand ce rapprochement avec la Russie a eu lieu. Et juste avant le tentative de coup et l'achat des missiles S-400, c'est juste l'accord pour cet achat, juste après le tentative de coup. Je veux ajouter quelque chose à cette question d'amertume. Vous sous-estimez les Européens parce que vous croyez que le coup était un autogolpe. Pas simplement le trauma, mais aussi la déception qu'ont eu les Turcs parce que les Européens n'ont rien dit.
À l'inverse de Vladimir Poutine.
Poutine, la Russie n'est pas membre de l'Union Européenne. Ok? Que les consulats ont annoncé ceci, les ambassades ont annoncé cela, aucun dirigeant européen a fait ce qu'il a fait, soit Poutine, soit M. Zarif d'Iran, téléphoner au président de la République. Quoi que ce soit l'histoire réelle de ce qui s'est passé cette nuit-là, est-ce que les Européens se tairaient s'il y avait quelque chose de pareil en Hongrie? Et donc, cet événement a poussé la Turquie un tout petit peu vers la Russie. Et le truc avec la Russie, c'est plutôt contre les États-Unis parce que les Européens ne sont pas vraiment dans le jeu en Syrie. Et en Syrie, je crois que c'est Didier qui en a parlé, et la Turquie, l'État turc, même le peuple turc, se méfie de la construction d'institutionnalisation d'un État, quasi-État, kurde, dirigé, géré par le PKK, qui est le némésis de la Turquie. Maintenant, pour la première fois depuis au moins 70 ans, la Turquie doit décider où elle se trouve stratégiquement. Moi, je n'ai jamais douté l'identité stratégique de la Turquie qui était dans l'Occident. Maintenant, nous ne sommes plus sûrs. Nous ne sommes plus sûrs. Et à ce point-là, Monsieur Erdogan va faire une décision. Moi, je favorise des relations propres avec la Russie, économiquement et tout ça, mais je préfère que la Turquie soit dans le système sécuritaire de l'Occident, parce que les relations entre la Russie et la Turquie ne sont pas des relations de deux pays égaux. Et notre dépendance en Russie, pas simplement en matière de gaz et tout ça, mais quand même, on ne peut pas bouger en Syrie contre les Russes. On ne peut pas bouger sans leur permission.
C'était des voisins au nord, maintenant ils sont nos voisins au sud.
Ils sont les deux. Ils sont au nord et au sud.
Oui, justement, on est ensemble.
Mais moi, je dirais que Erdogan ne décidera rien du tout parce qu'il ne peut rien décider. Et je dirais que la Turquie, ça n'est pas une bonne chose, va continuer à rester un objet stratégiquement non identifié parce que la Turquie ne sait plus où s'asseoir. Mais regardez, ce n'est pas le cas uniquement de la Turquie. Que diriez-vous des États-Unis? Est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont dans l'Alliance Atlantique? Ben oui, mais non. Non, mais oui. Est-ce que l'Europe est dans l'Alliance Atlantique ? Eh bien, elle commence à douter du parapluie américain, et, malheureusement, à bien juste titre, et donc elle commence à sortir, en tout cas psychologiquement, militairement, ça viendra aussi, je pense, et elle commence à sortir l'Europe de l'Alliance Atlantique. Donc tout bouge en ce moment.
Oui, Dis-le,
est-ce que ce rapprochement de la Turquie avec la Russie, est-ce qu'il vous paraît simplement le signe d'un mécontentement ou est-ce que ça vous paraît une tendance beaucoup plus forte de la diplomatie turque qui peut-être à travers ce rapprochement avec la Turquie veut s'affirmer comme un leader régional et voire un leader international?
Non. Elle veut peut-être s'affirmer comme telle.
On a évoqué la mégalomanie de M. Erdogan tout à l'heure.
M. Erdogan l'avait beaucoup proclamé après les révoltes arabes de 2011. Le résultat n'est pas très probant de ce point de vue. Essayons de prendre un tout petit peu de distance. Je suis de ceux qui restent persuadés que depuis déjà bien longtemps, la Turquie tente, difficilement, de réarticuler sa politique extérieure. Je ne partage pas l'idée de ceux, je ne crois pas qu'il y en ait autour de cette table, mais qui considèrent que la Turquie est depuis des décennies le petit doigt sur la couture du pantalon devant les États-Unis. Les relations sont beaucoup plus complexes. Il y a déjà eu des crises, on n'a pas le temps de les disséquer, mais rappelons-nous après l'intervention turque à Chypre en 1974, pendant trois ans, il y a eu un embargo des livraisons d'armes états-uniennes en Turquie. Nous étions en 74, donc avant la chute du mur, etc. Puis, quelques décennies plus tard, 2003, rappelez-vous, le président Bush demande aux Turcs de pouvoir déployer 62 000 soldats américains sur le sol turc pour attaquer l'Irak par le nord. Il y a eu un débat assez agité au Parlement, et puis finalement, un vote négatif. C'est très important. Donc, je considère que ces tensions avec tel ou tel pays de l'OTAN, avec tel ou tel pays occidental, ne sont pas nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est la place de la Turquie, parce que la Turquie n'est plus le pays qu'il était il y a une vingtaine d'années. La Turquie a pris confiance en elle. Elle s'affirme sur la scène régionale, même si elle n'est pas le leader du monde régional, elle ne le sera probablement pas. Donc tout cela compte beaucoup dans sa façon de percevoir son environnement géostratégique immédiat et voir son rapport au reste du monde. On dit souvent que désormais, c'est une formule un peu rapide, mais la Turquie a une politique extérieure à 360 degrés. C'est réducteur, mais c'est un peu vrai. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc on peut comprendre les tensions réelles qui existent aujourd'hui avec l'OTAN et surtout avec les États-Unis au vu de ces évolutions. Mais je reste persuadé pour ma part que les alliances stratégiques fondamentales, c'est peut-être une nuance que j'ai avec Soli, les alliances stratégiques fondamentales de la Turquie ne seront pas modifiées. Elles seront peut-être réarticulées, modifiées, mais il n'y aura pas de rupture. Et d'ailleurs, pour terminer, cet été même, aux États-Unis, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a fait une déclaration dans un colloque, un symposium public, en expliquant la question des S-400, certes, c'est un problème, mais on ne peut réduire la relation de la Turquie à l'OTAN au seul problème des S-400. Donc, ni l'une ni l'autre des parties n'a intérêt à la rupture. Et en réalité, dans la tête des responsables turcs, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de M. Erdogan à proprement parler, mais la véritable assurance sécurité pour ce pays, c'est l'OTAN et c'est pas Moscou.
On a bien compris que le départ de la Turquie de l'OTAN, c'est pas pour demain. Je voudrais qu'on termine en revenant un instant sur les relations de la Turquie et de l'Union européenne et la géographie. La Turquie sera toujours, cet entre-deux aux confins de l'Europe, avec un pied en Europe, un pied en Asie. Et on sent bien que les relations entre l'Europe et la Turquie sont forcément très présente, importante. C'est le cas pour la lutte contre le terrorisme. C'est évidemment, on l'a pas encore évoqué. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot pour la gestion, le contrôle des flux migratoires. Quelle relation la Turquie peut-elle envisager avec l'Union européenne, sachant que les Turcs disent nous voulons une adhésion pleine et entière, et les Européens sont tentés de dire on est prêt à accorder à la Turquie une relation sur mesure, un peu exceptionnelle, mais pas la pleine adhésion. Qui veut rebondir, ce sera le mot de la fin.
C'est une relation qui se dégrade lentement, mais sûrement, mais à mon avis, qui ne se rompra pas. Parce que les Européens ne voudront pas dire officiellement, ben non, on ne veut pas de la Turquie, et la Turquie ne voudra pas dire, ben non, on renonce à notre demande d'adhésion. Mais en vérité, qu'est-ce qui peut
se
passer ?
Vous dites que l'histoire et la géographie seront les plus fortes.
Je dirais. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Que les structures internes de l'Union européenne évoluent et que l'Union européenne devienne une union à plusieurs vitesses, à plusieurs cercles. Et à ce moment-là, la Turquie y trouvera tout naturellement sa place, mais pas dans le premier cercle qui sera le premier cercle politique.
Monsieur Özel, un mot turc sur cette conclusion.
Je suis d'accord, mais écoutez, si les États-Unis se retirent d'Europe et du Moyen-Orient, il faut que l'Europe et la Turquie s'entendent pour une nouvelle un nouveau genre d'association.
Absolument.
Je ne sais pas exactement comment le définir, mais à mon avis, c'est inévitable.
Non seulement il le faut, mais ça se fera.
Et là, c'est de nouveau
dans l'hypothèse d'un retrait.
Et là, c'est de nouveau Bernard Guetta un parallèle avec la Russie.
De nouveau, bien sûr, évidemment.
Parce que la Turquie et la Russie, c'est toujours les deux autres. Les deux autres.
Bah, c'est les deux Européens qui sont autres.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe à Istanbul. Réalisation Guillaume Munier. Merci aux équipes de l'Institut du Bosphore et plus particulièrement à Didem Bora. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour réécouter ce Carrefour de l'Europe en podcast RFI.fr ou l'appli RFI Plus Radio. On peut dire aussi en balado-diffusion, c'est ce qu'on dit au Québec. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Istanbul, Paris, Bruxelles ou ailleurs dans le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.